Vous écoutez, on lit pour vous.
Aimer les femmes, c'est les aimer en vie. Un texte de Patrice Saussier, paru le 19 juin 2025 dans la presse. Aujourd'hui, je pense beaucoup au poète Boileau et à ces deux vers que j'ai appris au primaire. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors que je désire témoigner de mon indignation face au féminicide probable de Joanie Imbeau, le 5e en 5 semaines et le 7e depuis le début de l'année, je peine à trouver les mots. Je comprends très bien toute la portée de cette violence meurtrière, de ce geste haineux envers les femmes. Je comprends leur colère et notre responsabilité en tant qu'hommes de ne jamais reproduire un tel comportement. Je voudrais exprimer mon dégoût envers ceux qui banalisent cette violence, qui l'approuvent même ou la commettent, qui refusent de prendre leur courage à deux mains et de demander de l'aide. Or, face à ce féminicide, tous mes mots demeurent bloqués au fond de ma tête. Comment expliquer cela? Comment témoigner sincèrement de ma solidarité? Je suis tellement désolée, chagrinée, révoltée et, en mots commençant par la lettre T qui signifie « petite armoire qui occupe le milieu de l'autel d'une église ». Tout ce que je parviens à répéter, c'est qu'encore une fois, une femme est tuée par un membre du clan des hommes, mon clan, qui, comme trop d'entre nous, n'a rien compris à l'amour. D'après mon expérience de vie, l'amour est attirance, intellectuelle, physique, passion, tendresse, attention, rire, folie. Il est aussi complicité, compromis, travail d'équipe, confiance, respect, ouverture, élévation, engagement, et plusieurs autres qualités qui font de l'amour une expérience unique à vivre. Il ne peut être contrôle, possession, jalousie, obsession, vengeance, violence et meurtre. Et pourtant, celles qui ont perdu la vie aux mains de leur conjoint ces derniers temps n'auraient pas dû payer de leur vie pour réparer les fissures que ceux-ci cherchaient certainement à masquer sous une colère toxique. Une colère qui a irrémédiablement abîmé leur manière d'aimer. Demander son chemin. Des erreurs peuvent être commises en amour, car il est un parcours imparfait. Des épreuves, des situations qu'on ne voyait pas venir, des changements brusques, même des ruptures qui nous transpercent le cœur et qui vont mal. Or, lorsqu'on s'égare en voiture, on demande son chemin. On ne perd pas patience au point de s'enfoncer davantage. Donc, lorsqu'on va mal ou qu'on a mal, on cherche de l'aide, on ne se laisse pas intoxiquer par nos sombres forêts intérieures. Mourir sous les coups de quelqu'un qui aime au point de tuer, ce n'est pas qu'absurde et désolant, c'est surtout inacceptable. Je termine cette lettre peu convaincue d'avoir trouvé les bons mots pour exprimer mon désarroi et ma colère. Comme le disait le même Boileau du début, tout doit tendre au bon sens. Que celui-ci soit d'aimer les femmes dans la douceur, le respect de leurs personnes et de leurs ambitions. Les aimer en vie, surtout.
Même si l'agriculture s'adapte, les rendements de blé, de riz ou de maïs vont chuter, selon une étude. Un texte de Sophia Bouderbala, de l'agence France Presse, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir. Les changements climatiques vont réduire la capacité de la planète à se nourrir. Même en cas d'adaptation des pratiques agricoles, les rendements caloriques mondiaux de 6 cultures majeures seront inférieurs de 11 à 24 % d'ici 2100, selon une étude publiée récemment dans Nature. Chaque degré Celsius supplémentaire de réchauffement global réduira la capacité mondiale à produire de la nourriture de 120 kcal par personne et par jour, soit 4,4 % de la consommation journalière actuelle, estiment les auteurs, qui font démarrer leur période de référence au début des années 2000. Si le climat se réchauffe de 3 degrés Celsius, c'est comme si chaque personne sur Terre renonçait à son petit déjeuner, explique Solomon Siang, professeur en sciences sociales environnementales à la Stanford Doerr School of Sustainability et co-auteur principal de l'étude, cité dans un communiqué. Cette vaste étude a été menée pendant 8 ans dans 55 pays par des chercheurs issus d'une quinzaine d'universités dans le cadre du Climate Impact Lab, consortium de recherche de l'Université de Chicago. Si de précédentes recherches avaient déjà documenté les pertes de rendement agricole liées au réchauffement climatique, les auteurs soulignent que c'est la première fois que sont analysés à la fois les effets du climat et ceux de l'adaptation des pratiques. Sélection variétale, utilisation d'engrais, irrigation, etc. Les chercheurs ont analysé la situation pour 6 cultures de base: blé, maïs, riz, soja, sorgho et manioc, selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. L'étude ne tient toutefois pas compte d'un changement de culture ou du décalage des semis. Elle se base sur les pratiques existantes, alors que les agriculteurs constatent déjà dans leurs champs les effets d'un réchauffement de plus de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Disparition de la Corn Belt. Si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, les rendements en calories seront inférieurs de 24 % en 2100 par rapport à un monde sans changement climatique. Sans adaptation supplémentaire, la perte pourrait atteindre près de 37 % à l'échelle mondiale. En revanche, les pertes de rendement seront limitées à 11 % si les émissions chutent rapidement. Dès 2050, quels que soient les efforts de réduction des émissions, la baisse des rendements caloriques serait de 8 % L'importance du réchauffement redessinera le visage de la planète agricole. Les grandes plaines américaines de la Corn Belt ou du Midwest verraient leur rendement fortement chuter. Les pertes pourraient atteindre jusqu'à 41 % en 2100, dans les régions les plus riches, aujourd'hui les plus productives. Les communautés rurales pratiquant des cultures vivrières, notamment celles dépendant du manioc en Afrique, seraient aussi durement touchées. Moins de 28 % de rendement dans les régions les plus pauvres. Les cultures elles-mêmes sont inégales face à la menace. Le blé, céréale du pain, accuserait un recul de rendement calorique de 30 à 40 en Chine, en Russie, aux États-Unis et au Canada, pays figurant parmi les 5 premiers producteurs mondiaux. Les pertes seraient moindres, moins 15 à moins 25 % en Europe de l'Ouest comme de l'Est, importants producteurs. Des gains sont possibles dans l'Est de la Chine. Le maïs, surtout consommé par le bétail, verrait ses rendements chuter de 40 % dans un scénario à fortes émissions dans la ceinture céréalière américaine, mais aussi en Asie centrale et en Afrique australe. Les pertes seraient plus modérées en Amérique latine et en Afrique centrale, environ moins 15 % atténuées par de fortes précipitations. Les rendements du soja, aliment prisé du bétail et transformé en agrocarburant, seraient divisés par deux aux États-Unis, mais augmenteraient de 20 % au Brésil, déjà premier producteur mondial. Les impacts sur le riz, céréales de base en Asie, sont contrastés selon les régions de production avec de fortes pertes attendues en Asie centrale. Le manioc, tubercule très consommé en Afrique, perdrait 40 % de rendement calorique en Afrique subsaharienne. En conclusion, l'étude salue une adaptation déjà en marche dans les champs, en particulier dans les régions chaudes à revenus faibles. En revanche, les greniers à blé mondiaux des régions tempérées présentent une capacité d'adaptation plus limitée, ce qui pèsera lourd sur la facture alimentaire mondiale. C'était « Même si l'agriculture s'adapte, les rendements de blé, de riz ou de maïs vont chuter, selon une étude. » Un texte de Sophia Bouderbala, de l'agence France Presse, paru le 18 juin 2025 dans Le Devoir.
Pierre Giorgio Pulizzi, Le charme discret des crimes sardes. Une entrevue réalisée par Chantal Fontaine, parue le 17 septembre 2024 dans les libraires. C'est la Sardaigne qui nous appelle lorsqu'on plonge dans le riche univers des polars de Pier Giorgio Pulizzi. Avec sa plume évocatrice et ses personnages uniques, l'auteur raconte son pays par le prisme de ses coutumes. Dans ses histoires qui ont toute une saveur accrocheuse et mystérieuse, l'écrivain évoque des crimes inspirés de rituels ancestraux ou pigés dans une actualité mordante. Alors que l'auteur prendra part au Festival Québec en toutes lettres, nous avons souhaité échanger avec lui question de vous mettre en appétit. Que ce soit dans « L'île des âmes » ou « La septième lune », dans « L'illusion du mal » ou « Le chant des innocents », votre œuvre est traversée par un rythme particulier et un territoire qui devient tangible même pour ceux qui ne l'ont jamais foulé. Si vos personnages sont récurrents, la série n'est pas si linéaire. Vous vous amusez à nous surprendre, si? Oui, c'est bien cela. J'aime écrire des histoires qui varient dans les nuances de genre littéraire, tout en restant toujours dans le macro-genre du noir, mais en jouant avec le thriller, le polar, le roman policier, le roman psychologique et social, et ainsi de suite. Mais surtout, j'ai choisi une forme de série littéraire particulière, différente de la série traditionnelle où l'on trouve un seul protagoniste, un petit groupe de personnages secondaires et toujours le même cadre. J'admire ceux qui réussissent à maintenir cette forme de série pendant des années, en restant originaux et en trouvant toujours des histoires intéressantes à raconter. Dans mon cas, j'ai préféré me concentrer sur une série élargie, avec plusieurs personnages principaux, Certains émergent davantage dans certaines histoires, prenant l'épaisseur de protagonistes et peut-être que dans le roman suivant, ils deviennent des personnages secondaires ou ne sont même pas présents. Plusieurs cadres. Le fait que Strega et son équipe appartiennent à une unité spéciale me permet de les déplacer sur tout le territoire italien. Et même les histoires elles-mêmes diffèrent souvent dans leur nature. Parfois, elles sont plus intimes et explorent les relations personnelles ou familiales. D'autres fois, elles abordent des thèmes plus brûlants, liés à la technologie. Je pense à l'illusion du mal. Et parfois, ce sont des ethnopolars, c'est-à-dire qu'elles explorent l'âme la plus ancienne de certains territoires, par exemple la Sardaigne, en exploitant l'archéologie et l'anthropologie. J'aime apporter de la fraîcheur et du dynamisme à cette série afin d'offrir aux lecteurs des émotions et des histoires toujours différentes. Dans l'île des âmes et dans la septième lune, vous mettez en scène des meurtres rituels inspirés du folklore sarde. Est-ce que ce folklore est encore présent, vivant, dans la Sardaigne d'aujourd'hui? Non. Du moins, pas avec l'intensité présente dans le roman. Malheureusement, de nombreuses traditions de cette terre se perdent, car elles étaient transmises oralement des personnes âgées aux plus jeunes. Le problème est qu'en Sardaigne, il y a depuis des années une hémorragie de jeunes qui quittent l'île à la recherche d'un avenir meilleur sur le continent. Des villages entiers se dépeuplent, surtout dans l'intérieur des terres, et nous assistons à l'apparition de véritables villages fantômes dans certaines zones. Souvent, les anciens n'ont plus personne à qui confier ce bagage de traditions, de souvenirs et de mémoires, et tout se perd. Ce qui émerge à la place, c'est le côté folklorique de ces traditions. Je pense au carnaval sarde et à de nombreuses fêtes villageoises qui perdent souvent la véritable philosophie derrière cette culture, devenant simplement des attractions touristiques. Et il me semblait donc juste de capturer ces traditions, au moins dans le roman, pour les figer sur le papier, afin de se souvenir des croyances d'autrefois et de la manière dont nos ancêtres vivaient. Dans vos romans, les personnages ont tous une histoire, un passé, même ceux qui traversent brièvement l'intrigue. Vous nous avez fait connaître Mara Ray et Eva Croce, puis Vito Strega et dans la septième lune, Clara Pontecorvo. On s'y attache. La reverra-t-on? Clara est un personnage que j'aime énormément. Son ironie, la légèreté qu'elle apporte à l'équipe et ses mésaventures avec des hommes et des prétendants improbables ont immédiatement conquis le cœur des lecteurs, ainsi que le mien. Elle reviendra sans aucun doute dès le prochain roman et, au fil de la série, elle prendra de plus en plus d'importance. Vos personnages féminins ont un caractère bien trempé, sans tomber dans des clichés. Mara Ray et Eva Croce, notamment, doivent s'apprivoiser. Outre leur personnalité, il y a également leurs origines qui s'affrontent. Est-ce que le territoire participe au choc de leur rencontre? La Sardaigne et la Lombardie sont-elles si différentes que leurs citoyens le jugent? Sans aucun doute. Les deux régions sont très différentes l'une de l'autre, que ce soit par leurs caractéristiques paysagères, leur culture et leurs traditions, mais aussi par la vitesse à laquelle on y vit. En Sardaigne, le rythme est beaucoup plus lent et détendu, tandis que Milan est une ville au rythme effréné, où l'on est habitué à courir du matin au soir. Eva et Mara représentent deux extrêmes qui, une fois en contact, semble se compléter. Mara complète Eva et vice-versa. Si seules, elles sont des femmes fortes, mais aussi fragiles et imparfaites, ensemble, elles forment un duo d'enquêteurs impeccables. Bien sûr, leur relation n'est pas toujours facile, mais je pense que, roman après roman, le respect professionnel entre elles est en train de se transformer en une belle et solide amitié. Les plaisanteries entre la Sardaigne et Milan continueront sans aucun doute, car il y a d'un côté un peu d'arrogance et de l'autre un peu d'envie. Vous écoutez Pier Giorgio Pulixi, Le charme discret des crimes sardes, une entrevue réalisée par Chantal Fontaine, parue le 17 septembre 2024 dans les libraires. Malgré le fait qu'il n'ait pas toujours été parfait, Vito Strega est un homme bienveillant, à l'écoute de ceux et celles qui l'entourent. Je crains que vous ne le connaissiez pas, mais pour nos lecteurs du Québec, Strega me rappelle un peu le Armand Gamache de Louise Penny. Cette gentillesse et cette écoute tranchent avec l'alcoolisme et l'amertume des enquêteurs que l'on a souvent vus par le passé chez d'autres auteurs. C'est important pour vous de proposer un homme équilibré? J'adore le commissaire Gamache. Je l'adore et je serai toujours reconnaissant à Louise Penny, grande et raffinée écrivaine, qui maîtrise parfaitement le trait psychologique tout en sachant plonger habilement au cœur de la psyché criminelle, d'avoir inventé ce personnage et la série se déroulant à Three Pines, un endroit où je m'installerai immédiatement sans hésitation. La lecture des romans de Louise Penny m'a sans aucun doute énormément influencé dans l'évolution du personnage de Strega. Gamache est un personnage extraordinaire, car son humanité est bouleversante. Il parvient toujours à toucher le cœur des gens, qu'ils soient bons ou mauvais, avec une gentillesse ferme. Sa rigueur morale, son éthique, sa capacité à prendre des décisions complexes, souvent des dilemmes éthiques, sans pour autant perdre son centre moral, font de lui bien plus qu'un personnage. C'est une personne réelle. Chaque fois que je lis un de ses romans, j'ai l'impression de rentrer chez moi, parmi mes amis, et son équipe, qu'il dirige avec leadership et respect, te donne vraiment l'impression d'en faire partie. L'évolution de Vito Strega depuis La Septième Lune est sans aucun doute due à mon coup de cœur pour l'inspecteur en chef Gamache. J'espère que Strega se débarrassera bientôt de ses démons intérieurs pour devenir un leader compatissant et charismatique comme Gamache, mais surtout un homme fort qui ne perd pas sa tendresse innée comme Armand. Je crois que nous avons besoin de figures de référence comme Gamache et Strega dans un monde où les protagonistes tournent uniquement autour de l'action effrénée, du cynisme et de l'impudence. Il y a de la noblesse dans la gentillesse. Et Gamache et Strega, à sa manière, possèdent cette noblesse qui l'élève au rang de héros littéraire. Votre livre, L'illusion du mal, est dangereusement actuel. Cette idée de se faire justice en direct en faisant participer les internautes est terrible. J'ai peur de vous demander ce qui vous a inspiré cette histoire. Malheureusement, j'ai été inspiré par la réalité qui nous entoure, et plus précisément par l'utilisation indiscriminée et totalisante que nous faisons d'Internet et des réseaux sociaux. Ils nous ont été présentés comme des outils à notre service. Mais je crois qu'en quelques années, nous sommes devenus les outils au service des réseaux sociaux et de leurs algorithmes froids, glacial et cruels. L'illusion du mal est également une métaphore littéraire du populisme et du vigilantisme violent qui traversait l'Italie il y a quelques années. Cela existe encore aujourd'hui, mais cela s'est légèrement atténué. L'idée d'un tueur en série populiste pratiquant l'autojustice qui utiliserait les réseaux sociaux et le côté sombre du web pour cibler ses victimes et impliquer le public dans ce gigantesque procès pénal virtuel me semblait être une photographie très précise de la situation politique et sociale de mon pays à cette époque. D'une certaine manière, la dépendance aux réseaux sociaux, aux téléphones intelligents et au web s'est encore accentuée après la pandémie de COVID. C'est un aspect très intéressant à raconter, surtout dans un roman policier, un genre particulièrement adapté à dépeindre la réalité. La librairie des Chats noirs, votre prochain livre, serait disponible au Québec en octobre. Que pouvez-vous nous en dire? Ce roman est assez différent de la série Trailer avec Strega et son équipe. Ici, nous sommes dans un roman policier classique. Le cadre est celui d'une petite librairie indépendante spécialisée exclusivement dans les romans policiers, appelée la Librairie des Chats noirs. Les deux chats, qui sont en quelque sorte les mascottes de cette librairie, s'appellent, sans surprise, Miss Marple et Poirot. Marzio Montecristo, le libraire, rude mais au cœur tendre, avec son club de lecture qu'il surnomme affectueusement les détectives du mardi, aide de temps en temps la police sur des affaires particulièrement complexes en utilisant les connaissances en matière d'enquête qu'il a acquises après de nombreuses années à lire des romans policiers. Marzio et son groupe de lecture ont souvent des intuitions géniales qui conduisent les vrais policiers à identifier le coupable. Le tout est ponctué de nombreuses références littéraires et d'une forte dose d'ironie qui atténue le drame. J'ai décidé d'écrire ce livre, car je pense qu'un auteur doit, de temps en temps, explorer des territoires narratifs différents pour éviter de tomber dans les écueils de la routine créative. De plus, j'aime ces romans policiers à l'ancienne. Ils ont une qualité vintage, rassurante, qui me rappelle ma préadolescence lorsque je lisais des auteurs comme Conan Doyle, Poe, Ellery Queen et, bien sûr, Agatha Christie. Je voulais aussi atteindre un public qui n'aime pas les romans noirs ou violents, ou ceux trop ancrés dans la réalité, car ils préfèrent une dimension plus rassurante et réconfortante. En outre, écrire un roman policier classique n'est pas du tout facile. Le mécanisme narratif doit être parfait. Rien ne peut être laissé au hasard, et cela m'a obligé à me remettre en question, en m'appuyant sur une structure différente de celle de mes précédents romans. Je suis très heureux de l'avoir fait, car je me suis beaucoup amusé, et mes lecteurs aussi. En fin de compte, c'est le plus important. Offrir à nos lecteurs quelques heures agréables lorsqu'ils ressentent le besoin de se déconnecter de la réalité pendant un moment. C'était Pier Giorgio Pulixi, Le charme discret des crimes sardes, une entrevue réalisée par Chantal Fontaine, parue le 17 septembre 2024 dans Les Libraires.